des blocs de béton posés pour protéger l'université Howard, le QG de campagne de Kamala Harris. Des barricades dressées devant la Maison Blanche et le Capitole. Les vitrines des commerces de Washington aussi protégées par des panneaux de bois. Ces images montrent la violence à laquelle on se prépare aux États-Unis à la veille du 5 novembre, jour de l'élection présidentielle américaine. J-1 avant un scrutin sous très haute sécurité, bienvenue dans le Washington Briefing. Bonjour Thierry Arnaud.
Bonjour.
Tu es éditorialiste politique international, tu es en ce moment à New York. Bonjour Benoît Ballet.
Salut, salut à tous.
Tu es correspondant aux États-Unis, tu es à Mar-a-Lago en Floride, là où Donald Trump fêtera sa victoire ou contestera celle de Kamala Harris. Déjà aujourd'hui, Donald Trump, Thierry, il disait qu'il y avait un risque de fraude. Il veut déjà contester les résultats.
Oui, il prépare déjà le terrain, pas seulement d'ailleurs dans les mots et dans ses déclarations. Il y a près d'une centaine d'actions en justice qui ont été intentées dans les 7 États clés. Des bataillons d'avocats qui sont déjà au travail. Cette contestation, elle est déjà très concrètement en marche. Et bien sûr, elle va s'amplifier si d'aventure les résultats ne sont pas en sa faveur dans la nuit de mardi à mercredi.
Benoît, il y a un risque de fraude réel.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2020, malgré toutes les affirmations de Donald Trump sur une fraude qui aurait, d'après lui, eu lieu et qui aurait donc fait qu'on lui a volé cette élection, je le cite toujours, il n'a pu fournir aucune preuve, le candidat républicain, d'une fraude. Alors, lui, il alimente les discours en disant qu'il y a des risques, mais ce que disent les personnes qui sont en charge de l'élection, l'administration américaine, explique qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de risques, que tout a été prévu pour que ça se passe bien, que l'élection soit intègre. Donc le risque, c'est Donald Trump qui agite ce drapeau pour quelque part, tu sais, tapisser, en fait, instiller l'idée selon laquelle, en cas de défaite, ça serait à cause de fraude. On se souvient, et c'est important de le rappeler, je trouve, que Donald Trump n'a jamais reconnu officiellement sa défaite en 2020 et il ne s'est jamais engagé à reconnaître les résultats de celles que l'on va vivre demain. Donc, est-ce qu'il y a un risque de fraude ? Quelque part, c'est pas à moi de répondre. Les officiels américains, l'administration Biden-Harris, expliquent que non, en tout cas que tout est fait pour que l'élection se passe bien, mais c'est pas du tout, comme on vient de le dire, le son de cloche qu'on entend du côté républicain.
Et justement, sur la sécurité des bureaux de vote, on est avec Elise Phillips et Sonia Reynaud qui sont dans un bureau de vote en Géorgie. Bonjour Elise Phillips.
Bonjour.
Comment est-ce qu'ils se préparent à l'élection de demain ?
Eh bien écoute, les organisateurs des élections ont tout prévu pour demain, pour ce 5 novembre, parce que ici en Géorgie, il y a des risques de tensions, en tout cas des inquiétudes, parce qu'il y a 4 ans, en 2020, c'est Trump qui avait perdu cet état-clé de Géorgie, et ses électeurs n'avaient pas accepté, en tout cas certains électeurs n'avaient pas accepté le résultat, donc il y avait eu des débordements. Donc pour que tout se passe bien demain, il y a plusieurs mesures de sécurité qui ont été prises, notamment dans ce bureau de vote que vous pouvez voir sur ces images de Sonia Reynaud qui est avec moi. Il y aura des officiers de police, il y aura un shérif à l'intérieur du bureau de vote pour s'assurer que tout se passe bien. Sur le parking dehors, il y aura aussi des officiers de sécurité. Et puis, les personnes qui vont être dans le bureau de vote pour organiser ces élections pourront faire appel si jamais il y a des problèmes. Eh bien, elles pourront signaler que quelque chose ne se passe pas bien. Un peu plus loin, par exemple, il y a des boutons de sécurité qui peuvent être activés si jamais il y a un incident. Donc, les organisateurs des élections peuvent appuyer sur ces boutons de sécurité pour signaler un incident et que des officiers de police viennent les voir pour régler le problème. Et puis, tout s'est passé aussi en amont. Tout à l'heure, il y a une dame du bureau de vote qui nous expliquait qu'au début du mois d'octobre, pendant 2 semaines, il y a des formations qui ont été organisées pour les organisateurs des élections, pour les former, les entraîner, savoir réagir si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites en amont pour bien réfléchir à l'organisation de ces élections et s'assurer que demain, il n'y ait pas d'incident, et que tout se passe bien.
Et justement, de quoi est-ce qu'on s'inquiète ? De fraude, de violence ?
Alors, les inquiétudes sur la fraude, c'est plus celles qui sont alimentées par le camp de Donald Trump. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump et tous les républicains, en tout cas le parti républicain, dit qu'il y a de gros risques de fraude de la part des démocrates ici en Géorgie et dans tout le pays. Mais pour l'instant, il n'y a aucune fraude qui a été avérée. Donc, les inquiétudes sur la fraude, ce n'est pas vraiment celles que ressentent les organisateurs des élections. Ici, dans ce bureau de vote, on nous dit plutôt que ce qu'on craint, c'est des tensions après le vote, en fonction du résultat. Parce que l'élection est tellement serrée, elle va se jouer à quelques milliers de voix près, il peut y avoir des tensions ensuite si jamais les électeurs du camp qui a perdu ne sont pas satisfaits du résultat. C'est ce qui s'est passé en 2020 ici en Géorgie, puisque Trump a perdu, mais avec seulement moins de 12 000 voix d'écart. C'est très peu, hein, c'est 0,24 points d'écart par rapport à Joe Biden. Et il y avait eu des tensions, des manifestations pour contester les résultats. Ça pourrait arriver, c'est une possibilité que ça arrive ici en Géorgie encore cette année, si jamais le résultat est très serré. C'est le scénario vers lequel on se dirige, puisque dans les derniers sondages, Donald Trump et Kamala Harris ne sont qu'à un point de distance. On est dans la marge d'erreur, ça va se jouer vraiment à quelques milliers de voix près. Et c'est ça que craignent les organisateurs des élections, des tensions après le vote, si jamais un camp n'accepte pas le résultat final.
Merci beaucoup Elise Phillips et Sonia Reno. Et à Washington aussi, on se prépare à de potentielles violences. Bonjour Patrick Sauss.
Bonjour Yves.
Tu es éditorialiste international et tu es en ce moment à Washington. C'est quoi l'ambiance en ce moment à Washington? Il y a des barricades, les commerçants commencent à se préparer à ce jour d'élection.
C'est très étrange cette capitale fédérale qui est une espèce de bulle. Tu le vois sans doute derrière moi, c'est une belle journée d'automne qui est en train de se dérouler. Il y a le calme, on n'a pas l'impression qu'il y ait énormément de forces de police comme on peut le voir dans d'autres grandes villes des États-Unis. Et puis, si on se rapproche, c'est à quelques blocs d'ici, de la Maison-Blanche, mais aussi du Capitole, de certains endroits, eh bien on se rend compte que des barricades sont en train d'être posées. Hier, j'étais en direct devant la Maison-Blanche et derrière moi, il y avait des ouvriers qui étaient en train de mettre des grandes barrières. C'est des grillages, en fait. Il faut s'imaginer des panneaux de grillage noirs très hauts, 4 ou 5 mètres de hauteur. Et l'idée, c'est vraiment de faire, comme le disent les Américains, un collier d'acier tout autour de la Maison-Blanche. Alors, c'est particulier. Il y a déjà des estrades et des gradins qui sont en train d'être mis en place. Pourquoi ? Pour le 20 janvier, on prépare l'investiture. C'est la même chose au Capitole. Mais très officieusement, en fait, on est en train de mettre sous cloche les installations démocratiques des États-Unis, parce que ce sont des symboles. Tout le monde pense évidemment au 6 janvier 2021.
Qu'est-ce qu'on craint aujourd'hui ? Est-ce qu'on craint quelque chose pour le 5 novembre ou le lendemain ?
À regarder et à écouter tous les derniers meetings de Donald Trump, mais en écoutant aussi les médias, la façon dont ils en parlent, on sait que Donald Trump n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait quelques premiers résultats un peu serrés et qui passeraient du côté de Kamala Harris dans un ou l'autre des États pour contester déjà. Alors on le sait, il y a des dizaines et des dizaines d'avocats qui sont prêts, mais en fait, il est déjà en train de mettre dans la tête d'un certain nombre d'Américains qui auront voté pour lui. Il y a déjà près de 80 millions d'Américains qui ont déjà déposé leur bulletin de vote, que cette élection, il y a un gros doute, et que en fait, ils sont en train de se faire voler encore les résultats de l'élection. Donald Trump, il refuse toujours de totalement reconnaître l'élection, son résultat de 2020. Et là, en fait, c'est le fait qu'il y ait cette espèce de doute qui s'installe, qui fait que on peut craindre effectivement des débordements. Alors, à Washington, encore une fois, il y a la police, il y a pourquoi pas la garde nationale, il y a des barricades, mais ce qu'a dit le FBI il y a quelques jours est assez inquiétant. Le FBI, qui a son siège tout près de mon hôtel, a dit « on craint pas forcément un 6 janvier bis au Capitole ou devant la Maison-Blanche, mais peut-être une multitude de petits 6 janvier très loin de Washington, dans des villes, autour de bureaux de recomptage et de dépouillement des votes. Et ça peut être très dangereux. »
Est-ce que c'est une... toi qui as couvert beaucoup d'élections américaines, est-ce que c'est une des élections américaines les plus violentes que tu aies vues ?
Ah bah, sur la campagne, c'est extrêmement violent. Lorsque tu écoutes les dernières paroles de Donald Trump, y compris pour nous, les journalistes, où il est en meeting hier, et il dit à ses partisans que attention, là, il pourrait y avoir un tireur qui pourrait tirer à travers les journalistes pour essayer de m'avoir. Mais bon, quelque part, je m'en fiche un peu. C'est pas très très grave s'il tire et abat des journalistes. Et tout le monde était là, yeah, you're right. C'était extrêmement violent contre les journalistes, extrêmement violent contre les autres aussi. Et finalement, tu connais le côté. Prescripteur d'un homme ou d'une femme politique, c'est pareil en France, si ces gens-là se mettent à être extrêmement violents, ils autorisent de fait une violence verbale, physique. Là, on voit, il y a un certain nombre d'articles, notamment dans New York Times ce matin, sur des boucles Telegram avec des gens qui n'en sont pas à dire « on est volé ». C'est qu'est-ce qu'on peut faire comme action violente, très vite, pour montrer qu'on ne croit pas dans le résultat de ce pays et de cette élection.
Merci beaucoup, Patrick Sauce.
Je t'en prie.
Thierry, les bureaux de vote sont sous très haute surveillance. Comment est-ce qu'on essaye de protéger, justement, ces bureaux de vote d'une potentielle fraude ?
Alors, on prend des protections énormes, au-delà de ce qui se passe à Washington, pour protéger la capitale. Mais là, on est prêt parce qu'on a vécu le 6 janvier. Et comme nous le raconte Patrick Sauce, on s'est déjà beaucoup organisé. Mais je te donne un exemple parmi d'autres, celui de la ville de Phoenix et du comté de Maricopa, qui est vraiment une partie clé de cet État, qui est un swing state de l'Arizona. Le shérif de Phoenix et du comté, il explique qu'il a refusé tous les congés pour la période de l'élection, que là où il y avait, il y a 4 ans, 50 personnes pour garder les urnes et garantir la sécurité, l'intégrité du dépouillement, là, il y en aura 200. Et il dit qu'il y aura des drones. Et il n'exclut pas, tiens-toi bien, l'hypothèse de mettre des snipers sur les toits, là où le dépouillement le plus important a lieu. Voilà, ça te donne un peu une idée de ce que peut être l'ambiance et de l'intensité de la crainte d'une violence au moment où on va compter les bulletins de vote.
C'est inédit, Thierry, ce niveau-là, une sécurité à ce niveau-là ?
À cette échelle, pour moi, oui. En tout cas, ça n'existe pas dans l'histoire récente. Le fait est, comme Benoît le racontait très bien, ça fait des années maintenant que Donald Trump conteste l'intégrité du processus électoral, accuse ses adversaires de tricher. Il y a quelques heures encore, dans l'une de ses déclarations, il disait « finalement, j'aurais jamais dû quitter la Maison-Blanche le 20 janvier, lorsque Joe Biden arrive, sous-entendu parce que c'était toujours moi le président, parce que j'avais gagné l'élection présidentielle ». Donc voilà, il met de l'huile sur le feu en permanence, et il alimente, encore une fois par ses déclarations, mais aussi par les actions en justice qu'il soutient un peu partout, cette histoire de fraude. Et évidemment, il fait aucun doute que partout où il sera en difficulté, et il y aura forcément des endroits, des comtés où ça va arriver dans la nuit de mardi à mercredi, il contestera.
Ouais, juste pour ajouter sur la question effectivement des bureaux de vote et de la sécurité, je me suis rendu il y a quelques semaines à Détroit, dans le Michigan, un comté qui avait été très disputé par les républicains. Ils avaient notamment manifesté, ils avaient appelé à cesser le décompte. Ils avaient tapé sur les vitres d'un des bureaux électoraux de Détroit. Je me suis rendu à cet endroit-là et j'ai pu parler avec le chef des opérations et de la sécurité pour cette élection 2024, qui m'a montré qu'il y avait désormais des vitres pare-balles de protection sur tout l'extérieur du bâtiment, qu'à l'intérieur, les interactions entre les électeurs et le personnel des élections étaient désormais très limitées parce qu'il y avait une vitre qui avait été une vitre blindée qui avait été installée dans l'interface en fait entre les isoloirs et les personnels de l'élection, qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui ont été installées aussi. Donc effectivement, Thierry donnait l'exemple du comté de Maricopa en Arizona qui est très très parlant, mais il y a comme ça aussi dans le Michigan, en Caroline du Nord, en Géorgie, de nombreux autres endroits effectivement où la sécurité a vraiment été renforcée parce qu'il y a des craintes que ce qui s'est passé en 2020 se reproduise à nouveau.
Et Benoît, là, tu es en ce moment à cause à bord donc, de la résidence de Donald Trump. S'il perd, tu t'attends à quoi comme réaction de sa part ?
Alors, on s'attend d'abord à ce que Donald Trump prenne la parole assez rapidement. Demain soir, tu vois derrière moi, c'est le je vais regarder exactement le nom, on est sur le Palm Beach County Convention Center. Donc c'est là qu'il va tenir sa soirée électorale à partir de midi demain, 18h en France. Et donc on suppose toute la nuit. C'est de là qu'il devrait prendre la parole pour On le suppose, mais c'est difficile de faire des prédictions. En tout cas, ce qui s'était passé en 2020, c'est que Donald Trump avait déclaré sa victoire avant d'être démenti parce que des votes, au fur et à mesure, étaient de nouveau comptés, notamment en Pennsylvanie. Donc, on s'attend, mais peut-être qu'on sera démenti à ce que Donald Trump fasse de même. Il a d'ailleurs déclaré hier matin, lors d'un meeting à Lititz en Pennsylvanie, on était avec Caroline Bertolino, qu'il fallait, d'après lui, que tous les votes soient comptés, que tous les votes soient décomptés et que les résultats soient connus demain soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Comprenez que si ce n'est pas le cas, ça veut dire, d'après lui, qu'il y aura eu une fraude. Donc lui, on s'attend à ce qu'il déclare sa victoire, parce qu'il ne déclarera pas autre chose. Il risque effectivement de contester si Kamala Harris est devant lui. On s'attend à ce qu'il fasse en tout cas une déclaration demain soir. Maintenant, comment est-ce que ses partisans, ses soutiens réagiront? Il y en aura sans doute beaucoup devant ce centre de convention ici. Il y en aura sans doute aussi ailleurs dans les différents états clés. Je parlais du Michigan à l'instant, mais il y a évidemment la Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Wisconsin. Bon, on ne va pas refaire la liste des états clés. Écoute, pour être tout à fait honnête, c'est extrêmement compliqué de prévoir ce qui va se passer demain soir et dans les jours qui suivent. Ce qui est à peu près certain, c'est que Donald Trump va prendre la parole très rapidement parce qu'effectivement, il l'a dit, d'après lui, les résultats doivent être connus dans la nuit de mardi à mercredi.
Thierry, est-ce qu'on sent une tension chez les militants républicains, les pro-Trump, ceux qui voudront défendre coûte que coûte la victoire de Donald Trump?
Oui, les militants sont chauffés à blanc. Voilà, on les encourage à cette hostilité, on les encourage, et j'allais dire le mot encourager est faible en l'occurrence, à douter du résultat de l'élection s'il ne va pas dans leur camp. Et on les encourage à douter aussi en particulier des médias. Il y a eu ce moment qui a beaucoup été rejoué ici dans un meeting de Donald Trump, où il est derrière sa vitre blindée comme il l'est maintenant quand il est en meeting à l'extérieur. Et il pointe du doigt la rangée de caméras de journalistes qui sont en train de le filmer. Et il dit, voyez, si les gens voulaient m'atteindre, il faudrait qu'ils tirent à travers les journalistes. Et franchement, ça m'irait assez bien. Voilà, donc c'est pour te donner un petit peu l'idée de l'ambiance qu'il entretient, du climat qu'il entretient, et comme ceux qui prennent la parole dans ces meetings, c'est dans cette toute dernière ligne droite.
Bonne ambiance pour toi, Benoît, comment tu te sens à la veille du coup du scrutin près de son QG?
Benoît, c'est fake news, hein. Fake news, Benoît.
J'étais à ce meeting auquel Thierry fait référence. Alors, j'étais pas avec les journalistes américains qui étaient donc sur l'estrade, qui auraient donc été traversés par une balle d'un tireur embusqué pour viser Donald Trump, et ça n'aurait pas donc gêné le candidat républicain. Donc, je me suis pas senti directement en danger. Mais effectivement, on est régulièrement visé par ces accusations de fake news. Tu sais, dans ces meetings, Donald Trump, il va parler d'une anecdote. Il va expliquer notamment que l'élection a été volée en 2020, mais que ça, les médias mainstream ne le diront jamais, virgule, fake news. Et donc, on montre du doigt les journalistes et on les fait huer par tous les spectateurs présents au meeting. Alors, une spécificité quand même, une exception pour les journalistes étrangers et français, quand on parle à des militants de Donald Trump et qu'on leur dit qu'on est français, tout de suite la tension redescend un petit peu parce que ils se disent que finalement on ne va pas tellement prendre parti, on ne peut pas faire de tort à leur candidat, on ne peut pas influencer l'élection, faire de l'ingérence électorale comme les fake news américaines, CNN, MSNBC, tous les médias plutôt de centre gauche ou centre droit, mais pas assez à droite pour les conservateurs. Donc dans la tête des soutiens de Donald Trump, les médias étrangers sont plutôt inoffensifs, donc s'ils doivent diriger leur colère, ça ne sera pas vers nous. En revanche, l'inconvénient et le pendant de cette attitude, c'est qu'on est totalement laissé pour compte, on ne compte pas pour eux, donc on est exclu finalement de toute l'action qui va se dérouler demain. On n'aura pas de place à l'intérieur de ce Palm Beach County Convention Center pour être au plus près de Donald Trump, de ses soutiens. On ne pourra même pas se stationner tout près. Hein, il y a un hôtel, l'hôtel qui est attenant à ce centre de convention. Donald Trump va tenir une soirée également avec des soutiens, avec des personnes importantes du parti autour de lui. Là non plus, aucun accès. Donc on va devoir rester à l'extérieur. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'on ne sera pas pris à partie. S'il doit y avoir de la violence, a priori, elle ne sera pas dirigée vers nous, mais encore une fois, le climat de tension, effectivement, il est assez fort, on le ressent, et on sera évidemment, avec Caroline Bertolino, Vincent Berthézen qui est là derrière la caméra, on sera évidemment vigilant.
Merci beaucoup Benoît Ballet, merci beaucoup Thierry Arnaud. À demain.
Salut, à demain. pour le jour J.
Merci, à demain.
Et il y a des crocodiles derrière toi, Benoît. Il y a un panneau avec un crocodile.
Il y a le panneau qui dit warning, gators in lake.
Oui. Oui, c'est des alligators, hein, c'est pas des crocodiles, mais.
Partie des choses oui. pour lesquelles il faut être vigilant également. Il faut être vigilant sur les alligators. On ne sait pas ce qui est le plus dangereux, les alligators ou les partisans de Donald Trump chauffés à blanc. Mais on va voir. Ils ont tous des dents. Après, à suivre.
Merci beaucoup. Passez une bonne journée, bon courage et à demain. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Washington Briefing. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site, l'application de BFM TV. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. À demain.